continuité de ce qui vient d'être dit, de cette grandeur, de cette majesté, de cette puissance de Dieu, je vous invite à réfléchir ce matin sur l'autorité de Jésus. Et la question de l'autorité, aujourd'hui, fait beaucoup de débats. On parle de crise de l'autorité dans la société occidentale, crise de toutes les figures d'autorité, quelles qu'elles soient, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les enseignants, que ce soit les magistrats. On parle de crise de l'autorité dans la famille également. Et je vais juste lire une citation à ce niveau-là. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Alors, c'est pas un texte contemporain, c'est une citation de Platon. Donc, vous voyez, la problématique n'est pas nouvelle par rapport à l'autorité. Et donc, je voudrais qu'on réfléchisse aujourd'hui sur l'autorité de Jésus à partir d'un texte de l'évangile de Luc. Donc, Luc 20, les versets 1 à 7. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent « Dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Et qui est celui qui t'a donné cette autorité ? Il leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, mais pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean est un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alors reprenons un petit peu le contexte de ce texte. Donc Jésus est à la fin de son ministère, il vient de rentrer à Jérusalem, acclamé par les foules. Luc 19, 36, 40 nous dit, quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la maison, quand il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude de ses disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Jésus est entré à Jérusalem, prophétiquement comme le roi, acclamé par la foule. Ensuite, il est entré dans le temple de Jérusalem. On voit un petit peu plus loin, 19:45. Il entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à le faire périr. mais il ne savait comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. On a donc là la dernière confrontation de Jésus avec les chefs religieux avant la crucifixion. Les chefs religieux voient Jésus à Jérusalem, dans le temple, acclamé par les foules, et ils ont évidemment l'impression que leur propre autorité est bafouée. C'est eux qui avaient la garde du temple. Comment Jésus pouvait se permettre d'avoir des actes d'autorité de cette façon-là dans le temple de Jérusalem? On peut penser qu'il y avait eu des plaintes, d'ailleurs, tous les marchands qui avaient été chassés avaient dû voir les chefs religieux leur dire « Mais pourquoi vous avez laissé faire ça ?» Et on voit qu'ils sont dans une attitude de refus de l'autorité de Jésus. Jésus s'est présenté à Jérusalem comme le roi, il s'est présenté dans le temple de Jérusalem comme celui qui a l'autorité sur le culte. Et ces gens vont refuser. Alors ce texte m'a frappé parce que c'est pas n'importe qui refuse. Ce sont les chefs religieux, c'est les responsables spirituels du peuple d'Israël qui refusent. Et je voudrais qu'on réfléchisse à partir de ce texte dans trois directions. D'une part, voir comment se manifeste cette autorité de Jésus dans son ministère. Deuxièmement, regarder le rejet de l'autorité de Jésus par les chefs religieux. Également, comment ils réagissent, quel est le fondement de ce rejet. Et enfin, terminer par l'acceptation de l'autorité de Jésus. Qu'est-ce que ça peut impliquer pour nous? Donc tout d'abord, l'autorité de Jésus. Je rappelle la question des chefs religieux. Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui est celui qui t'a donné cette autorité? Et on voit ailleurs dans l'évangile que Jésus ne laissait pas les foules inaperçues. Il était dit, Marc 1, 22, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc on peut comprendre que pour eux, c'était effectivement une remise en question. Alors le terme d'autorité qui est employé ici évoque la liberté absolue d'action de Dieu, sa souveraineté, et il évoque aussi l'autorité personnelle que les gens ressentent à la parole de Jésus, qui est intérieure à Jésus et non empruntée à d'autres autorités quelconques. C'est l'autorité même de Jésus, c'est l'autorité de Dieu qui se manifeste. C'est une notion un peu différente de l'autorité humaine, telle qu'on l'a définie, qui est plutôt une compétence, je dirais, à être reconnu par les autres pour les entraîner vers un objectif qu'on a fixé. Ça vient plutôt de compétences personnelles qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Là, cette autorité-là, c'est une autorité absolue qui vient de Dieu. On n'est pas dans la même notion. Et cette autorité s'est manifestée pendant le ministère de Jésus de façon puissante. Évidemment par ses miracles. Autorité sur la maladie, autorité sur la mort avec des résurrections, autorité sur les éléments naturels, on se rappelle la tempête apaisée, la pêche miraculeuse, la multiplication des pains, autorité également sur les démons et sur le monde spirituel. Luc 4, 36 nous dit « Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres « Mais quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Autorité par son enseignement, qui s'est manifesté, on se rappelle, dès l'âge de 12 ans, lorsque Jésus était resté dans le temple. Il est dit qu'il était avec les chefs religieux, et ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. On était frappés de sa doctrine, c'est dans Luc au chapitre 4, car il parlait avec autorité. il se manifestait également par ses prérogatives divines, le pouvoir de jugement, le pouvoir de pardonner les péchés. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il manifestait cette autorité aussi par un discernement de ce qui était dans le cœur des auditeurs qui étaient en face de lui, des personnes qui étaient en face de lui. Il est dit dans Jean 2, 25, il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc un discernement absolument exceptionnel. Et enfin, il avait le pouvoir de transmettre cette autorité. Puisque Jésus, ayant assemblé les 12, Luc 9, verset 1, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les maladies. On avait donc une expression extraordinaire de l'autorité de Dieu, comme nous n'avons jamais connu nous-mêmes. Cette autorité était manifeste pour tous ceux qui approchaient Jésus. Et ne pouvait pas laisser indifférent, Jésus portait l'autorité de Dieu lui-même. Et c'est là que la situation des chefs religieux devient évidemment un peu difficile. Donc, ils rejettent l'autorité de Jésus par une question, par quelle autorité fais-tu ces choses ? Alors, qui sont les auteurs de cette question, d'abord ? Il nous est dit qu'il s'agit des sacrificateurs, des scribes et des anciens, c'est-à-dire les plus hautes autorités du peuple d'Israël à cette époque-là. Les sacrificateurs étaient responsables du culte, du système des sacrifices qui était au cœur du culte des Juifs à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs étaient les responsables spirituels du peuple. Les scribes, c'était plutôt les enseignants. Ils scrutaient les Écritures. Ils avaient un rôle d'interprétation des Écritures. C'était, je dirais, les théologiens, en quelque sorte, de l'époque, et passaient beaucoup de temps à édicter des règles, en particulier d'interprétation, pour adapter la loi aux différentes situations de la vie qui étaient là. C'était donc les théologiens connus de l'époque et qui donnaient un peu l'orientation sur les questions de société à cette époque-là. Et enfin, les anciens, c'était les responsables politiques, les responsables administratifs et judiciaires du peuple. Donc là, il s'agit des anciens du peuple d'Israël. Après, il y avait des anciens dans chaque ville, dans chaque localité. On avait donc sacrificateurs, scribes et anciens, c'est toutes les autorités de l'époque. Et on voit un petit peu plus loin que ces autorités sont elles-mêmes divisées en plusieurs couronnes de pensée. Donc on a les pharisiens qui mettent l'accent sur l'application stricte de la loi. On a les sadducéens qui ont une vision beaucoup plus libérale et qui essaient d'accommoder la loi de Moïse avec l'environnement de l'époque. Qui est un pays qui est dominé par les Romains avec une pensée grecque, hellénique, donc ils essaient de faire un peu le lien avec tout ça. Donc voilà les hommes qui posent la question. C'est vraiment les responsables au plus haut niveau du peuple d'Israël. Et chose importante, ce sont les responsables spirituels du peuple. Alors quelle est leur stratégie dans cette question ? Ben, on voit bien que c'est un piège qui est porté à Jésus. La réponse à la question ne les intéresse pas vraiment. C'est un piège qui doit se refermer sur Jésus pour le faire discréditer auprès des foules et pour le faire condamner. Alors, à cette question, s'il répond que son autorité vient de lui-même, il peut être accusé d'être un agitateur, une sorte de gourou autoproclamé, et on pourra le condamner facilement. S'il répond que son autorité vient d'une autorité religieuse quelconque, on pourra aussi l'accuser de mensonge, parce que c'est eux qui étaient censés reconnaître l'autorité religieuse et personne d'autre. S'il répond que son autorité vient de Dieu lui-même, directement de Dieu, on peut l'accuser de blasphème. Et on peut le condamner également. Parce que les autorités religieuses ne l'avaient pas dit de cette façon-là. Et on voit dans la suite que dans le temple, comme les chefs religieux ont peur de la foule qui admire Jésus à ce moment-là, ils vont essayer de poser d'autres questions. Il y a une série de questions qui suivent, et ça c'est la première question qui est posée à Jésus. On sait qu'après il y a la question du tribut à César. Doit-on payer le tribut à César, la puissance occupante, ou pas? Ça pouvait le mettre en porte-à-faux par rapport aux autorités, par rapport aux pharisiens, par rapport aux uns et aux autres. Après, il y a les Sadducéens qui posent la question, mais donc il y a un homme qui a eu donc sept femmes qui sont mortes les unes après les autres. Au ciel, de qui sera-t-il? Quel sera le couple reconnu pour remettre en question la résurrection? Donc on voit qu'il y a des tas de questions qui sont posées pour remettre en question l'autorité de Jésus. Et donc derrière cette stratégie, évidemment, apparaît clairement que eux ont répondu à la question, déjà. Ils ne croient pas en Jésus et veulent le faire mourir. On l'a déjà vu. On a vu que durant son ministère, il conteste son manque de respect des prescriptions de la loi, des traditions qu'ils ont eux-mêmes établies, faire des miracles le jour du sabbat, prendre le repas sans se laver les mains. On se rappelle de ces différentes polémiques, surtout avec les pharisiens. Et finalement, face à la manifestation de l'autorité et de la puissance de Jésus, ils ont conclu quelle était la source. Marc 9, verset 32, « Comme il s'en allait, voici, on emmena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent, « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Voilà pour eux quelle était l'origine des miracles et de tout ce qu'ils voyaient, de tous les actes de puissance. Donc leur jugement était fondé, ils ne croient pas en Jésus, ils pensent que les actes de puissance viennent du diable, et ils pensent que pour cette raison, Jésus doit être mis à mort. Et on voit dans les évangiles qu'à plusieurs reprises, Jésus a eu des échanges avec eux sur son autorité et sur son identité de fils de Dieu, et il a été rejeté. Jean, verset 5, chapitre 5, verset 17, dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis de la part de mon Père. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà le point central qu'il refusait. Et qui était quand même le point essentiel. Alors face à cette attitude, ils posent une question, mais c'est un piège. Ils n'attendent pas la réponse et ont déjà, eux, une réponse. Jésus pose une autre question. Il leur répondit, je vous adresserai aussi une question, dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Il oblige les chefs religieux à se positionner eux-mêmes, cette fois, et je dirais que le piège qu'ils avaient préparé se retourne contre eux. Et c'est intéressant de voir leur raisonnement face à la question de Jésus, leur embarras. Si nous répondons des hommes, le peuple nous lapidera, parce qu'ils croient que Jean est un prophète. Si on dit qu'il vient de Dieu, on va dire, mais pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Ils préfèrent ne pas répondre. Donc leur préoccupation première n'est pas la vérité, n'est pas la recherche de cette question-là. Leur préoccupation, c'est la préservation de leur position devant le peuple. Il n'y a de leur part qu'une stratégie, une politique de communication, une communication pour manipuler peut-être les foules, pour que leur autorité à eux, bien établie, ne soit pas remise en question. Ils ne sont préoccupés que par cela. C'est quand même frappant, hein, quand on voit ce texte. Et donc, face à cette attitude, Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Ne se souciant pas de connaître la vérité, les chefs religieux se voient exclus de la révélation de Jésus comme Messie d'Israël, comme envoyé de Dieu pour le salut du peuple. Il faut bien se souvenir que ces chefs religieux passaient du temps à scruter les Écritures dans l'attente du Messie. C'était l'attente première du peuple d'Israël. Et ils en étaient eux-mêmes l'avant-garde, en quelque sorte, en tant que responsables spirituels. Et la chose la plus importante, le Messie qui était devant eux, ben finalement, ils l'ont rejeté. Et Jésus poursuit son propos par la parabole des vignerons. Les chefs religieux sont assimilés aux vignerons infidèles qui rejettent et tuent le fils de l'héritier, du propriétaire. Le jugement des chefs religieux est donné. Eux ont jugé. Et maintenant, ils sont sous le jugement de Dieu lui-même. Et on voit cet enchaînement à partir de cette dernière confrontation. Refusant de reconnaître Jésus, ils vont le rejeter et le mettre à mort sur la croix, peu de temps après. Alors, Jésus a prophétisé sur cette situation lorsqu'il est rentré à Jérusalem. Hein, on a vu qu'il a été acclamé comme roi. Et Jésus a dit dans Luc 19, 41, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Les responsables du peuple n'ont pas voulu voir le Messie qui venait. Et donc le jugement à partir de là va se poursuivre. Et je pense que c'est pour nous un avertissement de ne pas endurcir notre cœur au point de ne plus entendre ce que Dieu veut nous dire. Je rappelle qu'on ne s'adresse pas à des païens, on s'adresse aux responsables spirituels du peuple. Et vraiment, ils sont passés complètement à côté. Et dans Matthieu 13, Jésus prononce aussi une parole, qui était une prophétie d'Ésaïe, qui s'accomplit justement à ce moment-là. C'est Jésus lui-même qui dit, « Et pour eux s'accomplit cette prophétie. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, et là Jésus parle aux disciples, parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Donc voilà ce que nous dit ce texte, et je voudrais qu'on élargisse maintenant sur le sujet donc de reconnaître l'autorité de Jésus pour nous aujourd'hui. Alors, premier axe, c'est ne pas se tromper soi-même. Je crois que c'est c'est ce qui m'a touché dans ce texte-là, de voir ces hommes religieux qui croyaient à la souveraineté de Dieu sur Israël et qui sont passés à côté. Ils sont passés à côté du but principal. Et donc, si on regarde un peu plus loin, les causes profondes du rejet de Jésus par eux, c'est certainement parce qu'ils ont enfermé la foi dans un cadre formel. Ils ont réduit le service pour Dieu à leur propre conception. On a un système bien rodé d'études, d'interprétation des textes de l'Ancien Testament par les scribes. On a défini de nombreuses pratiques, de nombreuses règles avec des commandements, avec des comportements à adopter. Et les choses se sont en quelque sorte figées sous cette forme-là. La prescription, la règle a pris le dessus par rapport à l'obéissance, par rapport à l'amour, par rapport à la justice. Ils ont aussi enfermé donc la foi. Ils pensent être les spécialistes de Dieu, les gardiens du temple, les gardiens des Écritures. Et leur enseignement donc doit s'imposer à tous, y compris à Jésus. Et s'opposer à eux, finalement, revient à s'opposer à Dieu lui-même. Et la pratique de la loi et toutes les règles nombreuses qu'ils ont fixées sont un signe de la fidélité à Dieu. C'est ce qui fonde la fidélité de ceux qui les suivent, et c'est ce qui fonde leur autorité aussi vis-à-vis de tous les autres qui ne suivent pas cette pratique de la loi. Et même, on voit à plusieurs reprises qu'ils condamnent, ils méprisent tous ceux qui ne les suivent pas, tous les gens du peuple qui n'appliquent pas avec rigueur toutes les traditions et toutes les règles qu'ils ont établies. Ils ont établi un système légaliste, en quelque sorte, dans lequel il y a une absence d'écoute, une absence de compassion. Ils ne peuvent plus écouter Dieu lorsqu'il se manifeste, et on voit qu'ils ne peuvent pas écouter non plus les besoins des gens qui sont autour d'eux. Ils se sont enfermés, en quelque sorte, dans un système religieux qui les a rendus aveugles. Alors, ça nous pousse à quelques questionnements à notre niveau, à savoir, est-ce que dans notre vie chrétienne, on est prêt à nous laisser interpeller par Dieu, par les autres, au-delà de nos conceptions, de nos choix, de nos schémas? Est-ce qu'on est prêt à reconnaître notre incapacité totale, par nos propres moyens, à plaire à Dieu? Est-ce qu'on est prêt à obéir à Dieu et à faire ce qu'il nous demande? Alors, reconnaître l'autorité de Jésus, c'est d'abord accepter l'autorité. Et on a du mal avec ça. Hein, c'est une notion aujourd'hui, on l'a dit, qui est une crise de l'autorité. Mais je crois que dans notre conception, on a du mal à se mettre sous l'autorité. On aime bien diriger les choses par nous-mêmes. Et on voit que la conception actuelle de l'autorité est devenue assez faible. L'autorité aujourd'hui doit se démontrer. Elle n'est pas innée. Elle peut être le résultat, c'est la définition du dictionnaire, d'un charisme naturel, de compétences, de capacité à fédérer autour de soi, d'entraîner autour d'un objectif commun. Elle met l'accent donc sur les compétences personnelles, et peut glisser facilement vers la manipulation. Elle peut être remise en question facilement. Elle peut céder la place face à l'accomplissement personnel, priorité à l'individualisme. Et je crois qu'en tant que chrétien, on est aussi touché, environné par ces idées, par ces conceptions, qui sont celles de notre société aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut nous replacer devant Dieu, rechercher, connaître Dieu, le prier de nous aider à nous placer sous son autorité. Est-ce que on se satisfait de notre vie chrétienne telle qu'elle est, ou est-ce qu'on attend une parole vivante de Dieu qui remet en question nos habitudes, mais nous permet d'être renouvelés pour avancer et marcher sur le chemin d'espérance que Dieu a préparé pour nous? Alors, ça c'est le contexte dans lequel nous sommes. Reconnaître l'autorité de Dieu, c'est une autorité, comme on l'a vu, différente de l'autorité telle qu'on l'envisage dans ce monde. C'est d'abord une autorité absolue et exclusive qui nous est demandée. Autorité absolue, on a évoqué tout à l'heure la grandeur, la puissance de Dieu. Jésus a dit, Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il est le souverain, il a l'autorité sur tout ce qui se passe dans le monde, hein, sur tous les problèmes contemporains qui sont lourds, qui sont difficiles. Hein. On a évoqué le terrorisme, les problèmes écologiques, etc. C'est lui qui a autorité. Il a autorité sur toutes les circonstances de notre vie. Il a autorité sur notre avenir éternel. Est-ce que vraiment on le croit? Est-ce qu'on vraiment on s'appuie sur cette autorité? Parce que bien souvent, nous, on s'appuie plutôt sur notre stratégie. Donc ça a plusieurs implications pour nous. Première implication, c'est prendre conscience justement des limites de ce que nous pouvons faire, de nos stratégies, de notre habileté, de nos connaissances, de nos conceptions, de nos schémas préétablis. C'est une position d'humilité qui est un préalable. Nous n'avons pas le pouvoir de régler par nous-mêmes tous les problèmes qui nous entourent, qu'ils soient individuels ou collectifs. Et souvent, on pense qu'on peut quand même se débrouiller par nous-mêmes. Comme les chefs religieux, ils avaient établi quelque chose pour pouvoir quand même assumer leur mission de responsable du peuple. Reconnaître aussi que nous ne sommes pas infaillibles et que nous pouvons nous tromper. On est toujours dans cette position d'humilité. Les chefs religieux ne voulaient pas se dédire sur Jean-Baptiste, reconnaître qu'il s'était trompé. Nous pouvons nous tromper et Dieu nous aide à avancer avec nos erreurs également. Donc l'autorité implique donc cette prise de conscience hein, que c'est lui qui a l'autorité, lui seul, et nous agissons sous son autorité et nous ne sommes pas Dieu. Luc 5, 31, Jésus prenant la parole leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et nous devons toujours nous sentir pécheurs devant Dieu pour pouvoir avancer avec lui. Deuxième implication, c'est prendre conscience de notre responsabilité devant Dieu. Devant qui nous devons rendre compte. C'est la position d'obéissance. Donc l'humilité et l'obéissance. Reconnaître l'autorité de Dieu est une obéissance exclusive. Et la simple reconnaissance de l'autorité, sa mise en pratique, est un rejet de Dieu. Et je dirais, c'est le cas des chefs religieux. Ils étaient tout à fait d'accord sur la souveraineté de Dieu, sur Israël. Mais il ne faisait pas ce que Dieu demandait. Se soumettre à l'autorité de Dieu implique un engagement total et qui nous heurte un petit peu. Nous, on aime bien des engagements dans la mesure de ce qui nous convient. C'est un engagement exclusif, se placer sous l'autorité de Dieu. Luc 9, 23, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. C'est une perspective qui est radicale. Et nous avons vraiment besoin de toute l'aide de Dieu pour entrer dans cette démarche. Car elle nous est pas naturelle, c'est lui qui nous aide à y rentrer. Enfin, reconnaître l'autorité de Dieu dans notre vie nous permet d'avoir une espérance vivante. Parce que quand on reconnaît l'autorité de Dieu, on se place dans les œuvres de son royaume. On pratique déjà les œuvres du royaume éternel de Dieu. Cela revient à vivre dans l'attente active et présente de ses promesses. Cela nous donne une identité devant Dieu. Cela nous donne une perspective éternelle. et ça change complètement notre conception des choses. Mais pour avoir cette dynamique-là, il faut se placer sous cette autorité de Dieu, dans l'humilité, dans l'obéissance, et c'est là qu'il agira, c'est là qu'il nous utilise. Dans les évangiles, Jésus cite un homme qui a compris et accepté l'autorité de Jésus. C'est le centenier romain. Je cite dans Luc 7, verset 6, « Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Cet homme, un étranger, occupant romain, avait l'humilité et avait compris l'autorité de Jésus. Les chefs religieux ne l'avaient pas saisi. Reconnaître l'autorité de Dieu consiste finalement à demeurer en lui, demeurer en Jésus, reconnaître son autorité, reconnaître que nous sommes dans l'incapacité par nous-mêmes d'agir pour plaire à Dieu, reconnaître l'autorité de Jésus, demeurer en lui, c'est l'écouter. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Hors de l'autorité de Jésus, tout ce que nous faisons n'apporte rien et se trouve finalement dans une sorte de vanité. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demeurez en Jésus nous donne une part de l'autorité de Jésus. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors que Dieu nous aide à rentrer dans ce chemin, car une grande espérance est attachée à son appel. Amen.
Merci beaucoup Jean-Noël pour cet enseignement. Reconnaître l'autorité de Jésus dans nos vies et aussi dans l'Église, c'est ce que nous voulons faire.